Voilà, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, nous sommes heureux d'être ensemble dans la présence du Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mon micro n'est pas complètement plein. Donc, je ne vais pas parler trop longtemps. Voilà, donc nous avons rappelé aujourd'hui ce jeûne fédéral. Voilà, qui a été institué, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. En Suisse, c'était en 1832, par la Diète fédérale à l'époque. Et puis déjà avant, il y a eu des journées de jeûne, à la fois de pénitence, à la fois de reconnaissance et puis d'intercession pour le pays. En particulier lorsque la Révolution grondait en France, au port de notre pays, il y avait eu un jeûne qui avait été déclaré par rapport à cela. Certains cantons sont allés très très loin, puisqu'ils sont allés jusqu'à instaurer une journée de jeûne par mois, et d'autres par semaine. Eh oui, vous voyez, c'est impressionnant tout cela. Alors, j'ai choisi ce matin de repartir dans l'Ancien Testament. J'avais déjà fait lors de mon dernier message, mais ailleurs, cette fois-ci, je vous propose de lire dans le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 29, depuis le verset 1. Et nous lirons jusqu'au verset 14. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il l'a remis, donc cette lettre, à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait, « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. » Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils à des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien-être est lié au sien. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ou 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Voilà. Donc, nous nous situons à une époque assez particulière pour le peuple d'Israël, puisque nous sommes dans les années, puisque le royaume du Nord, hein, vous savez qu'après le règne de Salomon, qui avait mal terminé Salomon, homme plein de sagesse pourtant, et qui a sombré dans l'idolâtrie, et à la suite de cela, eh bien, Dieu a partagé le royaume en deux, une partie, le royaume du Nord, qui a tout de suite mal tourné. Tout de suite, ils ont créé des nouveaux prêtres, ils ont créé des nouveaux lieux d'adoration, ils ont élevé des idoles, des veaux, etc. Et donc, dans le courant du 8e siècle, eh bien, Dieu a déporté toute cette partie du royaume du Nord chez les Assyriens. Il restait le royaume du Sud, Juda, et qui avait des rois qui, certains pour certains, étaient bons, pour d'autres étaient moins bons. Le royaume a resté encore pendant quelques dizaines d'années, et c'est dans les années 597 que finalement Dieu a également exilé ce peuple de par l'insoumission des rois. Et ils ont été exilés à Babylone en trois vagues. Tout le peuple n'a pas été exilé. Il restait une partie des Israélites à Jérusalem, mais toute une autre partie, surtout les gens importants, éduqués et autres, ont été exilés à Babylone. Et ce qui fait que il y avait des tensions entre ceux qui étaient à Babylone, ceux qui étaient à Jérusalem. Le roi, il restait encore un roi qui était sous la tutelle du roi de Babylone. Il y avait passablement de tensions, passablement également de faux prophètes qui s'étaient élevés contre Jérémie. Jérémie, eh bien, il avait une vie pas facile. Il devait annoncer la parole de Dieu. Et il y avait à cette période, eh bien, quantité de prophètes qui disaient le contraire de ce que disait Jérémie. Et là, on est ce que Jérémie écrit ici aux gens à Babylone, donc lui-même est à Jérusalem, eh bien, c'est que de ne pas écouter ces faux prophètes. Il y en avait eu un particulièrement, Anania. On va juste lire quelques versets dans le chapitre 28 de ce même livre de Jérémie, qui a fait une déclaration absolument fracassante, hein, alors avec autorité, avec démonstration de force, quelque chose d'assez incroyable. Au verset 1, « De la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquième mois de la quatrième année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore deux années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Et Jérémie, à ce moment-là, qui portait un joug comme signe de ce qui attendait le peuple, eh bien, Anania n'a pas hésité, il a pris le joug qui était sur Jérémie et il l'a brisé pour dire, voilà, dans deux ans. Et puis, certains se disaient que puisque il y avait le temple à Jérusalem, eh bien, Dieu allait protéger son peuple. Hein? Il y a le temple, il y a les sacrifices qui sont faits. Est-ce qu'on a besoin de revoir notre conduite, de se remettre en question? Mais non, Dieu est avec nous. Dieu est au milieu de nous. C'était ça le raisonnement des Israélites, une grande partie. Et puis, au moment où le roi d'Assyrie avait déporté le royaume du Nord, eh bien, il avait échoué devant Jérusalem. Donc certainement qu'il se souvenait de ça aussi. Le roi d'Assyrie n'a pas été capable de prendre Jérusalem parce que Dieu est au milieu de nous. Eh bien, ce n'est pas ce Nebuchadnezzar qui va le faire. Donc il y avait une confiance qui était là absolument extrêmement forte. Et ce qui fait que Jérémie était dans une mauvaise posture parce que vous imaginez, on vient vous dire, dans deux ans, la crise est terminée. Amen. On vient vous dire, dans 70 ans, la crise est terminée. Hein? Et quand vous avez un prophète qui vous dit ça avec des signes et tout, on va le croire. C'est clair. Il y a beaucoup plus d'espoir chez les personnes, vous pouvez venir, hein, chez les personnes qui disent des choses qui sont bonnes, qu'on se plaît à écouter, que pour les personnes qu'on a plus de peine à écouter, qui nous disent des choses plus difficiles. Et pourtant, Jérémie avait mis le peuple en garde contre les faux prophètes et contre le fait que le temple était une protection. Dans Jérémie 7, je ne sais plus si j'ai proposé ou pas, mais ce n'est pas grave. « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, judéens, vous qui entrez par ses portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Donc voilà, le peuple a été mis en garde, mais ce n'est pas des paroles très encourageantes. Alors voilà qu'une partie du peuple était à Babylone, était dans la confusion parce que d'une part, ils avaient entendu quand même ce que Hanania avait dit. D'autre part, voilà que Jérémie vient leur annoncer un autre message. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient dans la nostalgie de Jérusalem. Il y a un psaume, le 137, qui parle de ça. « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Voilà, ils se souvenaient de Sion, et puis ils étaient là, dans un pays ennemi, hostile, assis au bord des fleuves, à pleurer, à se rappeler, plein de nostalgie de ce qu'était Jérusalem. On leur demandait de chanter des chants de leur pays, et voilà qu'ils disaient « mais on ne peut pas chanter des chants de notre pays en terre inconnue, en terre étrangère, ce n'est pas possible. Nous devons être dans notre pays pour pouvoir louer l'Éternel, pouvoir chanter des chants à sa gloire. » Et Jérémie vient dire des choses tout à fait étonnantes au peuple qui se trouve à Babylone en leur disant « Construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. » C'était, voilà, eux, ils étaient pas chez eux. Est-ce qu'on va aller construire une maison alors qu'on est en exil? C'est totalement contre-intuitif. Et en plus, voilà que la parole de Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, dit « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. » Parce que votre propre bien-être est lié au sien. Recherchez le bien-être de la ville, c'est le shalom de la ville. Recherchez le shalom de Babylone. Vous imaginez ? Recherchez le shalom de Babylone. Parce que le shalom de Babylone vous permettra de vivre dans la paix. Et ce n'est pas seulement la paix, le shalom, c'est le bien-être, c'est la prospérité. Ça va au-delà de simplement le fait d'être en paix entre deux individus. Donc voilà un message qui est là, qui est interpellant pour ce peuple déporté. Et puis, le deuxième point dans ce message de Jérémie, c'est de se méfier des faux prophètes et de ne pas les croire. Parce que Jérémie, après, a repris Hanania. Il ne l'a pas laissé, il ne lui a pas dit... Il n'est pas resté en arrière en lui disant « Ok, cool, tu penses ça ?» Non, il lui a dit « Ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Tu n'as pas été envoyé par Dieu et dans le courant de l'année, tu mourras. » Donc ça, voilà, ça rigolait pas. Et en effet, il est mort. Donc, il invite vraiment le peuple à se méfier des faux prophètes. Et puis, alors, il se termine d'une manière quand même qui est encourageante, qui est très positive. Parce qu'on voit que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il ne lui dit pas de construire des maisons et puis de se multiplier à Babylone, parce que le plan de Dieu, c'est que le peuple d'Israël se retrouve et s'installe à Babylone définitivement. Non, ce n'est pas du tout ça. Il a d'autres projets pour lui. C'est le verset qu'on aime bien citer, que Dieu a de bons projets pour son peuple et pour nous. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà, il y a cette espérance qui est là. Dieu n'abandonne pas le peuple. Mais il faudra patienter 70 ans. C'est long, 70 ans. Hein? Bon, en certains sens, ça passe vite. J'y suis pas encore, mais dans quelques années, oui. Puis d'autre part, quand on parle de c'est long, quoi. Ceux qui sont nés, ceux qui ont été déportés à Babylone, puis il y en a certainement une grande partie qui n'allait pas pouvoir retourner à Jérusalem parce qu'ils seront trop vieux, ils seront morts. Mais il y a cette espérance qui est là. J'ai des projets pour vous. J'ai des projets qui sont bons. Et puis, ça a été cité aussi encore quelqu'un qui a cité des versets par rapport à ça. Donc, Dieu a des plans et des projets. Alors, pour nous, parce que ça, c'était de l'histoire, c'est toujours intéressant, l'histoire. Après, il faut être attentif, on ne peut pas transposer ce qui était dans l'Ancien Testament tel quel à notre époque ou dans le Nouveau Testament. Hein. Il faut rester prudent quand même avec ça. Par exemple, on ne va pas aller forcément tourner pendant 7 jours, 7 fois autour d'une ville pour la faire tomber aux mains de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé cette méthode une fois qu'avec Jéricho, qu'il va la réutiliser et puis que c'est une manière de faire. Non. Alors on a des similitudes avec le peuple d'Israël en exil, mais nous avons également, bien sûr, des grandes différences. Je commence par les différences, c'est que nous n'avons pas été déportés et nous ne sommes pas sous le coup d'une condamnation. C'est un jugement de Dieu que le peuple ait été déporté à Jéricho. On est, de par notre nature nouvelle en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous nous retrouvons sur un terrain qui nous devient hostile et qui est hostile pour nous. Nous sommes étrangers sur la terre, comme les Israélites à Babylone. Nous sommes des pèlerins et nous sommes citoyens sur la terre. Et l'autre grande similitude, eh bien, c'est que Dieu a aussi pour nous des projets magnifique. Par contre, ben voilà, eux, ils étaient appelés à construire des maisons, à investir en quelque sorte dans la ville. Nous sommes invités à investir dans le royaume des cieux et pas sur cette terre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur la terre. On y reviendra. Nous sommes des étrangers dans un terrain hostile. Alors, c'est-à-dire jusqu'à ces dernières années, en Occident, ça n'a pas été, on l'a pas trop senti. Hein, on a été préservé. Puis maintenant, on commence à sentir une certaine hostilité à l'égard de l'Église. De plus en plus, la société voudrait que l'Église lui ressemble davantage, qu'elle soit plus tolérante à l'égard des minorités. On voudrait également, ou non, d'une certaine conception de la laïcité. Eh bien, on interdit les baptêmes dans le lac, dans certains cantons. Voilà, donc il y a, et puis il y a d'autres éléments aussi qui montrent qu'il y a, nous sommes dans ce terrain hostile qui va grandissant. Et puis d'autre part aussi, eh bien, il y a des défis, et puis certainement que les réactions face à l'Église sont aussi liées aux défis de notre société actuelle. Il y a eu le Covid. Ce n'est pas forcément terminé. Peut-être qu'il y aura d'autres maladies virales, je ne sais pas. On a maintenant, la première fois depuis plusieurs années, à nouveau la guerre sur sol européen. On a quand même une crise climatique avec des épisodes météorologiques extrêmes. On a des phénomènes de migration qui sont extrêmement importants, qui posent beaucoup de questions. Et puis des montées de totalitarisme dans plusieurs régions du monde, d'extrémisme. Il suffit de voir la montée des extrémismes. En Europe aussi, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Il y a une crise énergétique, hein. En tout cas, on nous en parle. Il y a une crise financière, crise des valeurs, la pauvreté qui augmente. Je m'arrête là. Mais il y a des défis qui sont là. Il y a une crainte qui monte dans la population en général, et puis dans les églises aussi. Hein. Nous ne sommes pas protégés par la crainte face aux défis qui sont là. C'était le dernier chant que nous avons chanté, elle est bien là-dedans, que nous cherchions à notre paix et notre secours en Dieu et pas dans les hommes ou dans les événements. Ce qui fait qu'en tant qu'Église, eh bien, nous vivons des tensions entre est-ce qu'il faut se couper du monde ? Pour certains, c'est la réponse. Est-ce qu'il faut s'y immerger ? On s'y immerge tellement que finalement on s'y noie. Ça peut être une autre réponse, un autre risque. Est-ce qu'il faut se lancer dans des grandes croisades contre certaines lois que l'on trouve amorales ? Est-ce qu'il faut se désintéresser de la politique ? Est-ce qu'il faut rester dans notre coin ? Voilà, il y a plusieurs questions qui sont là, plusieurs tensions que nous vivons. Et comment répondre à cela ? Eh bien, en revenant à Jérémie 29, et plutôt à ce que nous pouvons faire, nous voyons dans Jérémie 29 qu'il y a cette espérance pour le peuple d'Israël, eh bien, pour nous aussi. On peut lire dans 1 Pierre 1, ou verset depuis le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Donc, nous avons cette espérance, cet héritage vivant qui nous attend. Cette espérance que ce que nous vivons maintenant sur la terre, eh bien, ce n'est pas pour toujours. On ne sait pas pour combien de temps c'est. On l'a dit aussi ce matin, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Mais nous avons cette espérance vivante pour un héritage qui ne peut pas se détruire. Donc, il est là, il nous attend. Et ce qu'il y a de fantastique aussi, c'est que c'est Dieu lui-même, on lit là, qui nous garde par sa puissance en vue du salut. Ce n'est pas par nous-mêmes, par nos propres forces, mais c'est Dieu qui nous garde en lui, en vue de cet héritage. Alors, bien sûr, à nous de demeurer en Dieu aussi, afin que Dieu nous garde réellement. Si on va complètement à contre-courant, ça ne va pas aller. Mais que nous puissions vraiment être dans cette joie indescriptible et glorieuse que nous avons obtenu le salut de notre âme. C'est quelque chose qui a été répété dans la louange. Hein. On peut remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné son salut, parce qu'il nous a délivrés, parce qu'il nous a rachetés, parce que nous pouvons maintenant vivre dans la liberté. Alors même s'il y a des épreuves, même si nous sommes éprouvés pour un peu de temps, eh bien, nous serons dans l'éternité avec lui, là où il n'y aura plus de larmes, ni de pleurs, ni rien de semblable. Et puis, cet héritage, il est d'autant plus sûr que c'est au travers de la résurrection de Jésus-Christ qu'il est acquis. Ça va ? Ou bien vous dormez ? Non ? Et puis, Là, un autre point, eh bien, c'est de rechercher le bien de la ville ou de la région, parce que c'est pas, selon les traductions, c'est pas la ville au sens propre de la ville. Là, il parlait de Babylone, mais nous ne sommes pas. Ça ne signifie pas qu'il faut mettre tout l'accent sur les villes uniquement. Donc, rechercher le bien des villes, mais de la région. Et nous avons dans Galates 6 au verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Ouais, nous sommes appelés à faire le bien pendant que nous pouvons encore faire le bien. D'abord auprès de nos proches dans la foi, auprès de nos familles aussi. Ça ne sert à rien de. Le but n'est pas de négliger nos familles pour faire du bien ailleurs, mais que nous puissions manifester le caractère de Christ dans nos vies. Que ce soit par la prière, bien sûr, par le pardon également. Et cela, le pardon même et la prière même pour nos ennemis. Mais ça peut être également par des services pratiques, des engagements bénévoles, par voilà, la création d'aides sociales, mais qui sont soumises à la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à des artisans de paix, puisque Jésus est venu réconcilier le monde avec Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors voilà, dans ce monde où la crainte monte, soyons des artisans de paix et non pas, je disais ça, des gardiens de paix. Les gardiens de la paix, les gardiens de paix vont faire en sorte que, eh bien, les choses restent telles qu'elles sont. On voit en politique, dans la société, à partir du moment où il y a tellement d'incertitudes, on veut se raccrocher à ce qui était. On idéalise ce qui était, alors que c'est une manière de voir les choses. Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à être des artisans de la paix et à vivre la paix, à la manifester dans nos contacts avec les autres, de vivre en paix avec chacun dans la mesure où c'est possible pour nous. Et puis, être artisan de paix aussi, je pense que c'est d'être vigilant dans la manière avec laquelle on réagit à toutes les informations qu'on reçoit. Parce qu'on reçoit des informations de toutes sortes. On entend blanc, puis après on entend rouge, puis après bleu, puis après jaune, puis on ne sait plus. Finalement, on nous cache les choses, on ne nous dit pas la vérité, on ne nous dit rien. Alors soyons attentifs avec ça. Si la première information qu'on entend, c'est l'information rouge, eh bien qu'on se dit « Oh, c'est rouge, ça va être comme ça, c'est terrible, etc. » Ou bien ceux qui ont entendu d'abord l'information jaune vont dire « Mais c'est jaune, c'est pas ça, t'as rien compris, vous êtes à côté de la plaque, etc. » qui donne vite lieu à des conflits. On a des conflits d'idées. On est très prêt, ça c'est très humain, à entendre ce qui correspond à nos propres idées. Et puis, c'est cela auquel on va prêter le plus d'attention. Et après, le problème, c'est que on s'accroche à nos idées et puis il est difficile d'écouter les idées de l'autre sans en restant dans la paix. Alors restons vraiment dans la paix. Lorsque nous entendons des nouvelles, ne les propageons pas telles quelles comme étant des vérités. La désinformation est extrêmement importante. Mais tournons-nous vers le Seigneur. Et puis qu'on puisse vraiment mettre notre confiance en lui. Voilà, souci, ça peut être une période pour les faux prophètes aussi, qui surgissent comme ça. Et puis un autre moyen de chercher le bien de la ville, c'est de nous soumettre à nos autorités et de prier pour elles. Romains 7, verset 1, « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. » C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pas le bon verset, mais c'est Romains 7, verset 1. donc de se soumettre aux autorités. Et puis, alors je propose de passer à 1 Timothée 2, verset 1 aussi. Ah, excuse-moi alors. C'est 1 Timothée 2. Je suis un peu dyslexique des chiffres. Pas de souci, Gaël, pas de souci. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, donc le fait d'être, de prier pour la cité, hein, les autorités politiques, la politique c'est les affaires de la cité, hein, police, la ville, la cité, eh bien ça reste quelque chose d'actualité. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque où Pierre écrivait cela, les autorités n'étaient pas plus complaisantes à l'égard des chrétiens qu'elles le sont aujourd'hui. C'était la persécution, c'était des temps extrêmement difficiles à vivre. Et pourtant, nous sommes appelés à prier pour les autorités, même à intercéder, à faire des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, mais aussi pour les rois, et puis de se soumettre à l'autorité. Alors, la question que vous allez me poser, bien évidemment, c'est faut-il se soumettre à n'importe quelle autorité, puisque Paul a dit face au Sanhédrin, qui lui disait qu'il fallait arrêter d'annoncer l'Évangile, a dit au Sanhédrin, il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est une bonne question, et qui est d'actualité. Alors, je vais prendre deux exemples, pour éviter la polémique, parce qu'on peut vite tomber dans la polémique avec ces histoires. Je prendrai le premier exemple, c'est Daniel, le prophète Daniel. Daniel qui était déporté à Babylone, qui était un juif d'une tribu princière, d'une famille princière de la tribu de Juda, et qui est déporté à Babylone, qui est choisi pour ses qualités physiques, intellectuelles, morale par le roi pour se former. Et là, une des premières choses, et ce qui fait qu'en se formant, eh bien, il a acquis des responsabilités dans le cadre de Babylone. Il a eu un très haut niveau de responsabilité. Ce qu'on voit, c'est que Daniel a joué ce rôle. Il n'a pas cherché à vouloir introduire des lois juives à Babylone. Ce n'était pas ça son but. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué son rôle d'homme politique et puis, surtout aussi, il n'a pas renoncé à ses principes. Alors, pas des principes qu'on a comme ça, hein, qu'il faut arriver à l'heure, qu'il faut ci, qu'il faut ça, non. Les principes d'adorer Dieu et uniquement Dieu. Il a demandé au chef des eunuques au début qu'il n'ait pas besoin de manger la nourriture qu'il lui proposait, parce que c'était la nourriture qui n'était pas bonne pour les Juifs, donc il risquait de se souiller. Alors il a demandé ça avec beaucoup de douceur et de, en disant, mais voilà, on essaye pendant 10 jours, tu nous dis, tu verras qu'on sera aussi bon que les autres. Et puis, il n'a pas jamais hésité à mettre Dieu en premier. Quand il a interprété les songes du roi Nebuchadnezzar, il a dit que ce n'était pas lui qui interprétait les songes, mais que c'était Dieu. Et puis, il ne s'est non plus pas compromis à rendre un culte à Dieu, c'était plus tard, avec un roi plus tard. Pour lui, c'était que à Dieu, c'était Dieu seul qu'il allait adorer. Et il l'a adoré de manière visible. Il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Et Dieu l'a délivré. Et le résultat de cette attitude de Daniel, elle est quand même assez remarquable parce qu'on a, à suite à ça, 2 rois qui ont adoré le Dieu d'Israël. Nebuchadnezzar, en Daniel 4, il a été dépouillé pendant tout un temps de son règne, de son royaume. Daniel lui avait annoncé, il fallait du courage pour lui dire ça. Il est devenu fou pendant une période. Et il dit, au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Et puis Darius, après qu'il a retrouvé Daniel vivant après sa nuit avec les lions, dit « Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'Empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit les signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. C'est impressionnant, hein ? Cette attitude de Daniel ferme, ferme, mais qui ne veut pas apporter la révolution là où il est, mais qui reste fidèle à Dieu, ça entraîne l'adoration de la part de deux rois qui ne connaissaient absolument pas l'Éternel. Et puis, un autre exemple, c'est court, le temps file. C'est le texte d'un pasteur chinois, ça date d'il y a plus de 10 ans en arrière. C'est une lettre qu'il avait écrite parce qu'il sentait, sentait la menace des autorités chinoises et qu'il risquait d'être emprisonné. Et c'est ce qui s'est passé, en effet. Il a été emprisonné ainsi qu'une centaine de membres de son église. Et il écrit dans une lettre qu'il avait demandé qu'elle soit ouverte s'il ne revenait pas dans les 48 heures. Mon Sauveur Jésus me demande aussi de supporter joyeusement les conséquences de mes désobéissances à des lois mauvaises. Mais cela ne signifie nullement que ma désobéissance, ni celle de l'Église, représente une lutte pour des droits, ni un activisme politique sous forme de désobéissance civile, parce que je n'ai pas l'intention de changer les institutions ou les lois chinoises. En tant que pasteur, ma désobéissance fait partie de la commission de l'Évangile, donc de ce que demande l'Évangile. La grande commission de Christ exige de nous une grande désobéissance. Le but de la désobéissance n'est pas de changer le monde, mais de témoigner d'un autre monde. Voilà, alors que nous puissions vraiment rechercher le bien de la cité, c'est permettre que de nombreuses personnes puissent rencontrer Christ. C'est là le vrai bien. Et c'est vrai qu'à part ça, nous pouvons prier pour la sécurité, pour les autorités, pour tout le reste, tout à fait. Mais que nous puissions vraiment, en ce jour de jeûne fédéral, eh bien, nous tenir comme Daniel, sans compromis, que nous puissions nous tenir d'une manière ferme, nous souvenir surtout que nous avons cet héritage qui nous attend, parce que sans cet héritage, eh bien finalement, ça n'a pas d'intérêt ce qu'on fait, s'il n'y a pas de suite après, s'il n'y a pas de vie après la mort. Et de nous souvenir que nous avons un héritage et que cet héritage, eh bien, Dieu souhaite que le maximum de personnes puissent y le connaître et y avoir accès. Et cela passe, eh bien, par notre témoignage d'amour, par notre fidélité à la parole de Dieu, mais également dans un engagement concret. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra qu'on s'engage concrètement en tant qu'Église, vis-à-vis de nos frères et sœurs, mais aussi vis-à-vis de la population de notre région, pour pouvoir les aider, alors que nous puissions vraiment tenir ainsi et puis de prier pour que, en tant qu'Église, eh bien, nous soyons dans les bons combats, qu'on ne se trompe pas de combat non plus et qu'on mette les priorités là où Dieu nous demande de les mettre et que nous soyons des artisans de paix. Seigneur, merci parce que tu as accompli toutes choses. Merci parce que tu es avec nous encore. Tu prends soin de nous. Tu nous donnes des projets qui sont fantastiques. C'est peut-être pas pour demain, mais c'est peut-être rapidement, on ne sait pas. Et Seigneur, eh bien, que nous puissions vivre dans l'espérance de ce salut, dans l'espérance de ton retour, non pas en nous installant dans nos fauteuils d'église, mais en étant à ton écoute et en œuvrant pour toi de la manière à laquelle tu nous dis. Que nous soyons vraiment actifs aussi dans la prière pour nos autorités, de la prière pour l'Église aussi, pour les autorités des Églises, Seigneur, afin que ta volonté puisse se faire, puisse se manifester sur cette terre. Merci de nous garder encore en toi. Éveillé, vigilant, Seigneur. Amen.